Chapitre 7. Petit canal, 14h03. Valéric, Jolène et Amiel sont assis sur un muret, à une dizaine de mètres des marches des esclaves à l'ombre d'un figuier géant. Les racines de l'arbre ont poussé sur les ruines d'un vaste bâtiment, emprisonnent les murs encore debout, pénètrent à travers chaque porte, chaque fenêtre, tels des serpents patients. Encore quelques siècles et elles auront avalé toutes les pierres. Devant eux, les techniciens de la DZPJ continuent de passer au crible la scène de crime. Le cadavre a été embarqué à la morgue de Pointe-à-Pitre, mais cela n'empêche pas les badauds de s'agglutiner derrière la rue Balise et de mitrailler la scène avec leur téléphone portable. Jolène a vérifié sur son iPhone Pro. Les photos du corps harponné de Jacob Santamaria sont déjà devenues virales. Plus d'une centaine de partages et des dizaines de milliers de vues. Le commandant Cancel emprunte le portable de son adjointe. Il fait défiler consterné les clichés du cadavre rouge et noir sur fond de mer turquoise. Le cocu va en avaler sa cravate. Amiel sursaute.
Qui ça ?
Valentin le cocu, le nouveau sous-préfet à la sécurité. Il fait partie des rares hauts fonctionnaires en service extraordinaire, nommés directement par le ministère pour assurer l'ordre dans l'île. Toutes les infos doivent lui être montées en priorité. Le dossier est ultra sensible. Jacob Santamaria était l'une des grosses fortunes des Antilles, à la tête d'une chaîne d'hôtels de luxe, Kai Paradise. Il a fondé sa boîte à Antigua il y a 30 ans. Depuis, ses resorts ont poussé partout, dans une quinzaine d'îles. Partout dans les Caraïbes, sauf en Guadeloupe. Jolène allume une cigarette et observe le grand cul de sac marin, au-delà des escaliers du port et de la mangrove.
Qu'est-ce qu'il fichait ici, alors ?
Mystère. On va y aller en douceur. Santamaria, par sa nationalité antiguaise, était citoyen du Commonwealth, donc sous la protection de la couronne d'Angleterre. Mais avec ses centaines de cabanes sur pilotis dans les lagons de Saint-Barth, de Saint-Martin ou de la Martinique, il devait aussi connaître le 06 du ministre français des Outre-mer, la couleur du maillot de bain de sa femme et ses rhums arrangés préférés en fin de soirée.
Ça va pas, Amiel ?
On est vraiment obligé de débriefer ici ?
Le capitaine Ouassou surveille avec inquiétude les branches tentaculaires et les lianes qui pendent autour de lui.
Ouais, enfin non, pourquoi ?
Valéric apprécie l'ombre du figuier, la tranquillité du lieu, la proximité avec les techniciens qui ramassent les graviers ensanglantés de l'escalier à l'aide d'une pince à épiler.
« On est assis dans l'ancienne prison des esclaves », explique Amiel.
« Sous le figuier maudit ».
Jolène ouvre des yeux ahuris.
« Selon la légende, poursuit le policier, les esclaves qui ont été réquisitionnés pour la construire ont semé des graines de figuier, afin que l'arbre se venge et finisse par détruire la prison. »
« Bien joué !» applaudit Jolène.
Elle détaille les ruines du regard impressionné. Les racines et les branches ont crevé les charpentes, fissuré les voûtes, brisé les grilles. Le commandant Cancel, moins sensible que la capitaine aux légendes locales, n'a pas bougé.
« Si vous le permettez, on va encore braver la malédiction quelques minutes. On a presque terminé.
La veuve de Santa Maria nous attend. C'est elle qui a signalé la disparition de son mari. Elle a amarré son yacht dans la marina de Saint-François. »
D'après les premiers constats du légiste, Jacob a été harponné en pleine mer. Vraisemblablement quelque part dans le grand cul-de-sac marin. Le meurtrier a donc amené ensuite le corps ici. Il a pris beaucoup de risques pour organiser sa mise en scène.
« Je vais peut-être dire une bêtise. »
glisse Jolène en tirant sur sa cigarette.
« Mais notre Jacob n'a pas vraiment la couleur d'un béquet.
Il y a plus de chances que son ancêtre ait grimpé ses marches de l'enfer avec des fers aux pieds plutôt qu'avec un fouet. »
Cet Anatole Seignevan, ce serait son ancêtre ?
Ça m'étonnerait, réagit Amiel. Cette carte de visite n'a aucun sens. En 1660, les esclaves n'avaient pas de nom de famille. Il faudra attendre 200 ans pour que l'état civil français leur reconnaisse une identité. Et impossible qu'Anatole soit mort en 1663 à la prison de Petit Canal. Elle n'a été construite qu'au 19e siècle.
T'es sûr ? On dirait qu'elle a 1000 ans.
Valéric enfonce son chapeau sur ses cheveux clairs et sort de l'ombre des ruines pour affronter le plein soleil.
Parfait, ça vous fera des tas de sujets de conversation avec Damienne Santamaria. Elle dispose peut-être de l'arbre généalogique de son mari.
En espérant qu'il soit moins maudit.
Jolène, fière de sa blague, pose sa main sur le tronc du figuier. Amiel sourit.
Tu viens pas avec nous, Valéric ?
Pas le temps. Dans la série des contes et légendes locales, les témoins qui ont trouvé le cadavre de Santamaria affirment que l'emplacement du corps leur a été indiqué par un quimboiseur.
Les yeux de la capitaine Dos Santos pétillent de curiosité.
Un quoi ?
Un sorcier antillais, explique encore Amiel.
Un voyant. Un type qui voit l'avenir, la mort, l'au-delà, ce genre de choses.
C'est quoi ce délire, Valéric ?
Aucune idée, On a coffré le quimboiseur un certain Évariste Pigeon. Il m'attend au frais à la DZPJ. Je vais le cuisiner en évitant de trop le faire mijoter. On doit faire vite, les enfants. Le sous-préfet m'envoie un texto tous les quarts d'heure. Tenez, d'ailleurs. Le commandant tourne son téléphone vers ses deux adjoints. Des nouvelles, Cancel ? Tenez-moi au courant, minute par minute, s'il le faut. Je vous laisse 6 heures pour coffrer ce harponneur. Le procureur de la République tient à pouvoir annoncer que le meurtrier est hors d'état de nuire dès ce soir au journal télévisé de la première. V.L.